Donc après le Jedi, maintenant on va attaquer une autre, un autre sujet. Donc on ne présente plus Laurence Vanin.
Si, si.
Mais je vais le faire quand même. C'est une figure de style, hein, je vais le faire quand même. Même si elle vient régulièrement nous voir. Elle vient directement de Toulon, elle a dû trouver des trains, je ne sais pas.
Avion, je suis passée par la Suisse.
Ah ben c'est mieux. Et puis donc, elle est venue ici pour récupérer des chaussures qu'elle n'a même pas à Toulon. Alors, c'est pour notre grand plaisir, hein, qu'on t'accueille ici, bien entendu. Tu vas nous imprégner, donc, avec, comme d'habitude, avec ta verve communicative. On est impatients de t'entendre. Alors, Laurence Vanin est philosophe, essayiste, doctoresse lettres en philosophie politique et épistémologie. Alors, je ne veux pas, il y a toute une litanie. Elle a été directrice pédagogique de l'Université du Temps Libre de 1997 à 2017. Je vais y rajouter qu'en dehors de ses activités scientifiques, elle anime des pauses, philo et forums destinés au grand public. Ça te va?
Oui.
Aujourd'hui, elle est venue jusqu'à Épinal pour nous parler donc de ce sujet dans le cadre des croyances des imaginales d'Épinal. Le sujet, c'est « Foi en l'homme, anthropologie et philosophie d'après le livre de la jungle ». Tu as la parole, Laurence.
Merci beaucoup. Écoutez, moi, je suis ravie d'être là. Maintenant, j'ai l'impression d'être un peu chez moi quand je viens à Épinal. En plus, maintenant, je vais être à l'aise avec mes pieds, à l'aise dans mes baskets, comme on dit, mais plutôt dans mes tongs. Et en tout cas, je suis très heureuse d'être parmi vous. Très heureuse parce que c'est vrai que chaque année, il y a toujours une thématique d'abord qui est toujours très riche et très intéressante. Et je voulais traiter la croyance par le biais d'une autre pensée, on va dire. Mais juste pour ajouter un point de détail sur mon CV, parce que je pense que c'est important de pouvoir le souligner. Je viens de prendre la direction, non pas, je le dis, par manque d'ego, hein, surtout pas. Mais je viens de prendre la direction d'une chaire qui s'appelle Smart City Philosophie et Éthique. C'est une première mondiale parce qu'il n'y a jamais eu la notion de philosophie intégrée aux questions de la ville du futur et la ville connectée. Et je suis très heureuse de participer de ce grand projet et de l'avoir initié, d'autant plus qu'en étant franc-maçonne, je trouve que la ville qu'on est en train de créer pour 2050 avec ses projets va être opérationnelle donc en 2050 et plus, et on est en train de la mettre en place pour des enfants qui ne sont pas encore nés. Et je trouve qu'on a un devoir absolument, impératif de se mêler de la question. Pas pour critiquer les technologies, parce que moi je suis à fond pour la modernité, mais par contre il faut qu'on encadre tout ça de telle manière que l'homme se sente bien dans la ville du futur. Et on ne peut pas abandonner le sujet. Alors je suis heureuse d'avoir initié ce sujet-là au niveau des ingénieurs, parce qu'il y avait beaucoup d'ingénierie, et je travaille avec IBM et d'autres sur la question. Je suis très heureuse d'avoir trouvé des financiers qui suivent le mouvement, et puis maintenant de pouvoir agir sur les collectivités territoriales, et en même temps tous les techno-scientifiques pour pouvoir initier autre chose. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça, parce que si vous entendez parler autour de vous d'entreprises qui aimeraient avoir un dialogue philosophique autour de leurs problématiques, que ce soit l'environnement, la protection des données, l'homme augmenté, la médecine, etc., qui n'hésitent pas à se tourner vers moi, parce que ça sera vraiment quelque chose qui me tient à cœur et que je pourrais, je pourrais intervenir ou en débattre avec eux, ou j'enverrai des gens de mon équipe. Juste pour la petite histoire, Boris Cyrulnik parraine ma chaire, parce qu'il estime que justement, il faut réintégrer de l'humain, réinjecter de la résilience dans tout ça. Parce que la ville du futur ne peut pas se déconnecter de son passé. Enfin, il ne faut pas qu'on oublie ça. Voilà, c'était juste pour préciser cet élément, non pas, comme je vous dis, pour vanter ma qualité de directeur de chaire, parce que ça, pour moi, c'est secondaire, mais il fallait prendre le poste, entre guillemets, pour pouvoir agir. Donc, et l'action derrière va être assez colossale. Alors, on va revenir à notre petit sujet, entre guillemets, quand je dis petit sujet, vous vous doutez bien que c'est énorme, le livre de la jungle, enfin bon, vous l'avez tous vu en dessin animé, je suppose, on s'est tous déhanchés sur « il en faut peu pour être heureux », etc. Hormis que quand vous lisez le livre de la jungle, vous avez des poèmes, vous avez des chants, vous avez, des petits intermèdes comme ça entre les nouvelles que Kipling a développées, et ces nouvelles, ben, elles sont, et ces chants surtout sont très très érudits, et ils sont en plus connoté par une maçonnerie, ça vous le savez, mais c'est surtout, beaucoup plus subtil et beaucoup plus profond que le livre de la jungle pour les enfants et réorganisé par Walt Disney. Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a un livre de la jungle 1, un livre de la jungle 2, Et tout le monde s'imagine que ce n'est que l'histoire d'un petit homme, hein, pas un petit homme, un petit homme, et ça, ça a son importance. Tout le monde pense que ça se limite à ça, mais ça va beaucoup plus loin, vous vous en doutez, parce qu'on entre dans un autre, comment dire, dans un autre schéma, c'est qu'il y a énormément de nouvelles qui sont créées, qui tournent autour d'un phoque, d'une mangouste. Donc le livre de la jungle, les nouvelles consacrées à Mowgli, il y en a moins que la totalité des textes qui sont, qui concernent d'autres animaux de la jungle et qui concernent également d'autres rapports hiérarchiques à la cité. Donc ça, c'est intéressant de le souligner. Ensuite, je ne sais pas, je pourrais peut-être poser la question, qui a lu la nouvelle qui s'appelle « La nouvelle apparition de Mowgli » ? Personne. Voilà, ben c'est bien. Oui. Voilà, vous avez un devoir de vacances. Si vous lisez pas ça l'année prochaine, je reviens pas. Donc dans cette nouvelle qui est la première apparition de Mowgli, en réalité, ce qui est intéressant, c'est que Kipling a écrit cette nouvelle où il décrit l'apparition de Mowgli, et c'est quelques années plus tard qu'il a écrit le livre de la jungle 1 et le livre de la jungle 2. C'est-à-dire qu'il est revenu dans la chronologie pour nous expliquer d'où venait ce Mowgli qui apparaît dans une nouvelle qui s'intitule, c'est marrant quand même, hein, « Première apparition de Mowgli ». Alors, qu'est-ce qu'on y découvre dans ce texte qui est assez fascinant ? Mowgli est penché sur le cadavre d'un homme. Il tient éloigné les animaux, et les animaux cruels ou féroces qui pourraient manger la dépouille de cet homme défunt. Arrive à ce moment-là un responsable politique local qui observe ça, et il est accompagné de la veuve, enfin celle qui va découvrir qu'elle est veuve sur le coup, de la femme, donc du personnage en question, qui voit son époux à terre, qui comprend la gravité de la chose, et qui remercie Mowgli d'avoir préservé la dépouille de l'homme. Et ça, on est pour moi dans la première phase de l'anthropologie, puisque rappelez-vous, l'anthropologie, c'est quand les hommes ont commencé à enterrer leurs morts, et non pas les consommer. Donc vous voyez, on est vraiment, dès le début du texte, qui est le premier texte, hein, je le dis bien dans la chronologie, on est d'entrée posé dans une anthropologie, on est déjà posé dans la dimension de l'homme. Là où c'est intéressant, c'est que Mowgli va discuter quelques instants avec les personnes autour de lui, et il va les laisser, puisque bien évidemment, la part est au recueillement, et puis bon, bah, lui, c'est un homme de la forêt. Et les personnes vont revenir sur les lieux pour pouvoir le remercier d'avoir pris soin de la dépouille. Et Mowgli va faire des apparitions et disparaît. Alors, on nous le décrit comme étant celui qui arrive avec une couronne de fleurs. On a presque l'impression que c'est Pan, le dieu Pan, qui arrive dans une espèce de pastorale. Et en même temps, il intrigue parce qu'il parle aux animaux et il disparaît dans les sous-bois sans qu'on se rende compte. On lui parle, on se tourne et d'un coup, il n'est plus là. Donc, on a vraiment un rapport particulier, presque magique, énigmatique à cette apparition. Et là où moi je trouve ça fascinant, c'est que Mowgli, à ce moment-là, on va lui dire « qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Qu'est-ce qu'on peut vous donner pour vous remercier d'avoir préservé la dépouille de cet homme ?» Et Mowgli répond « donnez-moi un travail, je veux être garde champêtre. » Et là, on lui donne l'équivalent de ce poste de garde champêtre. Et là, on découvre parce que Mowgli est devenu grand, il est tombé amoureux, et s'il n'a pas un métier, eh bien, il ne pourra pas entretenir une famille, il ne pourra pas veiller aux besoins d'une épouse. Donc, il faut qu'il rentre dans la phase de l'humanité par le travail et par l'amour. Et en même temps, on prend conscience que ce Mowgli doit veiller, bien évidemment, sur cette femme avec qui il va vivre, mais il n'a pas, l'humanité qui correspond à l'humanité en vigueur. Je veux dire par là que, comme il a été élevé parmi les animaux, il n'est pas capable, entre guillemets, d'être cet homme que tout le monde connaît. Et comme il est différent, eh bien, il n'arrive pas à s'intégrer dans la cité. Donc, il veut vivre un pied entre les deux mondes. Un monde de la nature, il parlera toujours aux animaux, et un monde dans la civilité avec le mariage, le travail et le fait qu'il va côtoyer des humains, mais sans les fréquenter vraiment, puisque ce n'est pas sa famille, dit-il. Donc, vous voyez, on est dans quelque chose d'assez fabuleux. On est à l'entre-deux mondes, et le bois et la forêt deviennent cette lisière, ou en tout cas cette limite particulière, entre le monde de l'humain et le monde de cette humanité, c'est-à-dire le monde de l'animalité. Voilà. Parce que l'animalité est présentée comme ayant, moi j'appelle ça l'animalitude, c'est-à-dire une attitude, presque fraternelle entre des animaux. Et quand vous regardez aujourd'hui les animaux, ils sont capables d'une solidarité, ils sont capables de s'entraider, donc ça veut dire qu'ils ont développé quand même de l'altruisme à leur façon à eux. Donc voilà le décor, voilà comment on découvre Mowgli. Alors c'est intéressant parce que quand on revient au livre de la jungle avec l'antériorité de ce texte, enfin là, qui est écrit après mais qui raconte l'antériorité du texte, eh bien on découvre effectivement un petit dôme qui va être, comment dire, protégé par des loups. L'histoire commence ainsi, la nuit vient de tomber, le loup veut chasser, il veut chasser pour deux parce qu'il dit « il faut que je chasse pour ma femelle qui, elle, est en train d'allaiter les petits ». Seulement, je suis dans l'embarras parce que j'entends Shere Khan, le tigre, qui grogne, qui est en train de mettre la révolution dans la jungle. Et il dit, mais c'est pas possible, à force de se comporter comme ça, il est en train de mettre à mal l'équilibre de la forêt, puisque tant qu'il fera du bruit, le gibier va se cacher. Si le gibier se cache, je ne pourrai pas donc nourrir ma famille. Et donc, il y a un péril à ne pas respecter la loi de la jungle, c'est-à-dire la hiérarchie parmi les animaux. Alors ça, c'est intéressant parce que immédiatement, on comprend que il se passe quelque chose, qu'il y a un déséquilibre, il y a comme si, vous savez, on loupe la marche en gros. Et à partir de ce moment-là, va arriver un ensemble d'événements assez particuliers. On ne comprend pas pourquoi Shere Khan, le tigre, est un tigre qui va chasser hors de ses terres. Il faut savoir que le tigre qui chasse d'habitude dans ses terres, c'est une vallée où il y a énormément d'herbes, nous dit Kipling, et surtout il y a des veaux bien gras. Et c'est un tigre qui a voyagé. Et là, vous avez déjà la figure de Moïse qui apparaît, puisqu'il y a la vallée, il y a le veau d'or, il y a donc toute la symbolique. Et il faut lire le livre de la jungle en transposant tout dans la dimension, le gréco-romain, le christianisme, bien évidemment, et en même temps, toute la, comment dire, les us et coutumes du peuple, comment dire, hindou, puisqu'il y a effectivement le phénomène de caste, le phénomène de hiérarchie. Et tout ça, vous le visitez ou vous le revisitez par le prisme de la franc-maçonnerie. Donc c'est des textes absolument fabuleux. Il y a des passages, moi je trouve, très très émouvants. Et il faut commencer en comprenant qu'il y a péril à mettre un déséquilibre dans un des lieux de la nature qui rejoint la survie, et qu'à partir de ce moment-là, ça va déséquilibrer toute la vie des bêtes. Là, on comprend quelque chose d'assez fabuleux, c'est que, parce que le petit, il est en train, lui, de se sauver, il est plus, on va dire, dans le monde des humains, et il va tomber dans la tanière des loups, et de suite, il va se blottir contre la femelle, et il va être nourri au sein, entre guillemets, de la femelle. Et là, ça y est, on a la fondation de Rome. On a la fondation de Rome, puisqu'il y a la louve qui est là à nourrir les petits. Là où c'est très intéressant, vous voyez, je vous dis, le gréco-romain, c'est qu'il y a cette parabole, oui, on peut dire ça comme ça, mais en même temps, on apprend que Shere Khan, le tigre, est un tigre boiteux, c'est-à-dire que c'est un tigre qui n'est pas à sa place. Et le boiteux, c'est pour faire une allusion cette fois-ci à une légende tout à fait nordique. Non seulement il voit mal et il est boiteux, il est obligé d'envoyer devant lui non pas des corbeaux, mais Tabaki. Tabaki, c'est le chacal. Et ça, c'est une allusion à Odin qui avait perdu un œil et qui boitait. C'est-à-dire qu'il faut être le visionnaire, il ne faut pas être seulement celui qui annonce la mort. Donc, vous voyez, c'est fabuleux quand on analyse tout ça et qu'on commence à tout remettre en place dans le décor et dans la structure culturelle que Kipling a souhaité mettre en œuvre. Alors là où c'est intéressant, donc on a ce petit dôme qui vient se lever contre la femelle, qui va être nourrie, et à partir de ce moment-là, la louve va défendre les petits, et elle dit « il sera comme les autres, il est mien ». Le père loup dit « oh là là, mais on va au-devant d'ennui ». La louve dit « non, on ne va pas au-devant d'ennui, puisque maintenant qu'il s'est nourri et qu'il est intégré et qu'il est dans notre tanière, eh bien, il va falloir qu'on l'adopte ». Et le loup lui dit